Donc, nous allons voir la présentation des dons, qu'on appelle aussi offertoire. Mais je vais expliquer que ce n'est pas très très juste. Ce n'est pas très juste, en fait, de dire l'offertoire, dans le sens que ce n'est pas encore le moment où se réalise l'offrande. Voilà. C'est plutôt le moment où on présente les dons. Voilà. Et ensuite, il va y avoir ce mouvement d'offrande qu'on aura à l'anamnèse. En tout cas, bon, gardons ce mot de présentation ou d'offertoire comme on veut. Et donc, ça va être simplement, ben voilà, on apporte le pain, on apporte le vin, on fait une oraison, hein, voilà, et puis on fait un chant pour la procession d'offertoire. Donc, c'est assez court. Bon. Donc, on va étudier tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis ensuite, la fois d'après, on rentrera dans la prière eucharistique. Et la fois d'après encore, la prière eucharistique, on aura deux séances. Ensuite, le Notre Père. Et ensuite, la dernière séance, eh bien, nous ferons la communion et l'envoi. Voilà. Alors, nous nous étions arrêtés à la confession de foi, vous savez, au credo. Et donc, j'aime bien toujours réfléchir la messe comme une histoire. Hein, nous montons dans le train au début de la messe, et puis progressivement, eh bien, nous passons par des étapes pour devenir ce que nous avons reçu. C'est le but, hein. Le but, c'est de devenir à la fin de la messe, eh bien, ce que nous avons reçu, c'est-à-dire le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Bon. Mais pour devenir le corps du Christ, ça passe par des étapes. Donc, le credo, nous avons confessé notre foi, eh bien, après... vous savez que le mot après nous allons offrir notre vie en présentant ces dons. Le mot confession, on parle des confesseurs, c'est-à-dire des martyrs. Hein. Un martyr, c'est un témoin. Un martyr, c'est quelqu'un qui confesse sa foi. Donc, c'est intéressant, vous voyez, dans le mot martyr, dans le thème de la confession, eh bien dire sa foi, c'est en fait au plus haut point, c'est accepter de mourir pour elle. Hein? C'est comment il s'appelle oui, c'était le pape Jean-Paul II qui, dans la entrée dans le nouveau millénaire, disait en fait accepter le baptême, c'est accepter de mourir pour le Christ. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça devient de plus en plus vrai dans certains pays et même pour nous. Bon, enfin, ça devient. Faut pas que je fasse attention. Bon, enfin, voilà. On apprend petit à petit à donner sa vie. Bon. Alors, ce lien entre la confession de foi et l'offrande de notre vie, on l'a dans l'Écriture. Je pense bien sûr à l'évangile de Marc, mais aussi, je pense aussi à l'optique, j'ai pas vérifié, mais si. Donc, Matthieu et Luc. Vous savez, à un moment donné, Jésus demande à ses disciples, au chapitre 8 de saint Marc, au fait, qu'est-ce que disent les gens de moi ? Hein, il y a une enquête en Marc, chapitre 8. Alors, ils lui dirent, certains disent Jean le Baptiste, tu es Jean le Baptiste, pour d'autres tu es Élie, pour d'autres tu es un des prophètes. Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je ? Pierre lui répond, tu es le Christ. Confession de foi, tu es le Christ. Alors, il leur demanda de ne parler de lui à personne. Vous voyez, c'est le petit credo de Pierre. Pierre dit quelque chose de très juste. Confession de foi, tu es le Christ. C'est le premier credo. Bon. Et on nous dit, juste après, le verset suivant, alors, il leur demanda donc de ne parler de lui à personne, et il commença de leur enseigner. Donc, c'est un commencement. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les scribes, être tué, après 3 jours ressuscité. Vous vous souvenez de ce passage, hein? Il va être livré, etc. Bon. Et ressuscité, bien sûr. Bon, livré, ressuscité. Alors Pierre, il dit, mais ça va pas t'arriver, je comprends pas. Est-ce que Jésus va lui expliquer? Hein? Jésus n'explique jamais, en fait, le mystère de la croix. Par contre, il dit, appelant à lui la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, etc. Hein? Donc, tu as confessé ta foi, La suite de la confession, c'est que moi, enfin, allez, je vais faire plus simple, la suite de la confession, c'est que si tu veux me suivre, eh bien, il faut aussi que toi, tu acceptes le mystère de la croix dans ta vie. La première fois que Jésus parle de la croix, c'est pour le disciple. Hein? Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix. Jésus n'a jamais parlé de la croix avant. La première fois qu'il en parle, c'est avec le disciple. Donc on voit bien comment il y a un lien entre la confession de foi et la suite du Christ avec le mystère de la croix. Voilà, nous c'est pareil, nous avons vécu le credo, nous avons dit notre foi. Bon ben maintenant, on va offrir notre vie, parce que on l'a offert avec nos lèvres, notre vie, on a dit la bonté de Dieu qui est puissant, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, etc. Bon ben, il faut, maintenant que nous connaissons le Christ, que nous avons dit le Christ, il nous faut à notre tour avoir une foi réelle, c'est-à-dire une foi qui engage notre corps, notre vie et tout notre être. Hein. Rappelez-vous les quatre dimensions de la foi qu'on avait vues. Hein. Elle n'est pas simplement une adhésion, enfin un contenu extérieur, elle est aussi une adhésion. Hein, une adhésion du cœur qui passe aussi par une adhésion du corps et de tout notre être. Donc c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire s'offrir? Hein, on va le voir à la fin de l'enseignement. Bien. Et puis on va essayer de réfléchir à ce que c'est que le pain, ce que c'est que le vin. Alors, ce mouvement d'offertoire, donc ça c'est les petits points d'introduction hein, que je vous donne. Hein. Voilà. Confession et offrande de soi. Deuxième chose, c'est l'architecture, voyez. On nous dit ceci dans l'Évangile, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le récit de l'institution, vous avez en fait la suite de la messe. Jésus prend le pain. Ensuite, il rend grâce. Alors, prendre le pain, ben, on va l'apporter. Ensuite, il va rendre grâce avec toute la prière eucharistique. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toi qui as fait ceci, qui as fait cela. Toute la préface. Et ensuite, fit la fraction et la donna à ses disciples. Hein, donc, pareil, l'agneau de Dieu, fraction du pain. Et ensuite, on donne aux disciples. Donc, ça va passer par les prêtres, les diacres. Puis, quand il n'y en a pas assez, eh bien, bon, c'est des laïcs qui donnent. Voilà. Donc on a le mouvement, vous voyez, de l'offrande à travers cette petite phrase que nous avons dans l'Évangile. Alors, comment ça se passe? L'offertoire, d'abord, on prépare l'autel. Donc c'est assez simple. Alors qu'est-ce qu'il y a sur l'autel? Il y a une nappe, bon. Il y a ensuite ce qu'on appelle un corporal. Donc un corporal, je signale, voilà, c'est le nom, c'est ça. Donc c'est un morceau de tissu qui est plié en 8 parties. Non, c'est combien? 3 fois 3, 9. Ouais, 9. Bon, en 9. Ce qui fait que ça fait un peu comme une enveloppe. Hein, une enveloppe, pourquoi? Parce que dans le temps, alors je ne sais pas trop l'histoire hein, en détail, mais en fait on déposait le corps du Seigneur directement dessus. Et ce qui veut dire que si on dépose le corps du Seigneur, il peut y avoir des miettes. Donc c'est pour ça qu'on va replier, on ne sait jamais s'il y a des miettes, et on replie bien, et comme ça, après, on apporte ça à la crédence, et puis on fera attention, bon. Et on va laver les linges à part, bon, enfin, il y a tout un truc pour savoir laver les linges. Bon, ce qui veut dire quoi? Conséquence, c'est que le corporal, ce n'est pas une nappe supplémentaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas à être ouvert sur l'autel. Je vois ça dans certaines paroisses. Où vous arrivez à l'autel, il y a déjà le corporal qui est ouvert. Mais si le corporal est ouvert, ça veut dire que les miettes sont un peu à tout vent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le but, c'est de protéger. Donc, une fois qu'on a terminé la célébration, tout de suite, on referme. Voilà. Donc, ça, c'est le corporal. Ensuite, le purificatoire. Le purificatoire, je signale. Bon, c'est pareil, parce qu'il y a des sacristains parmi nous. Il a une petite croix. Voilà. Alors, il sert à nettoyer le calice. Alors, purifier, c'est. ne peut pas dire qu'ils soient impurs, parce que le calice a reçu le corps du Seigneur et le sang du Seigneur, donc on ne peut pas dire qu'ils soient impurs, mais bon, c'est ce terme-là. C'est plutôt le sang du Christ qui nous purifie plus que nous qui purifions. Bon, enfin bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça, cette petite croix signifie que c'est un purificatoire et que ce n'est pas un manuterge. Le manuterge, donc ça, c'est pour les mains du prêtre. En général, il a une petite croix en bas et pas en haut. Voilà, faut le savoir. Bon. Bon, des fois, il n'a pas de croix. Celui-là, il n'a pas de croix du tout. Bon. C'est pas très grave. Voilà, ensuite le nom où nous déposons le pain, le vin, avant la messe s'appelle la crédence. Alors la crédence, ça vient d'un mot en latin credere, qui veut dire croire. Donc la crédence était la table où l'on faisait naguère l'épreuve des mets et des boissons à servir aux grands. Et donc par la suite, c'est devenu la table où on dépose les plats et les bouteilles dont on a besoin pour un repas. Mais voilà, on allait, avant de donner donc l'aliment, eh bien, des serviteurs les goûtaient afin qu'ils fussent présentés aux convives en toute confiance. Voilà, c'était pour voir si c'était bon, mais c'est aussi pour voir s'il n'y avait pas de poison. On est sûr que voilà, ça a été goûté avant. Donc, crédence, voilà, croire, hein, je crois, je fais un acte de foi que ce qui est déposé là, et bon. Bon, pour nous, ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais au lieu de dire petite table, bon, enfin, le mot c'est crédence maintenant. Pareil, on dit un ambon, on ne dit pas un pupitre. Bon, c'est les termes, voilà. Ensuite, je n'ai pas apporté, vous avez la patène. La patène, donc ce petit vase sacré, voilà, ça veut dire du latin patena, qui veut dire plat creux, qui reçoit les hosties, la grande hostie ou les hosties. Voilà pour la patène. Et le ciboire qui vient de kyborion, du grec kyborion, Kyborion. Bon. Qui désigne le fruit du nénuphar d'Égypte et par extension la coupe ayant la forme de ce fruit. Donc, voilà, le ciboire, apparemment, il a la même forme que le fruit du nénuphar d'Égypte. Bon, faut connaître, hein. Et ensuite, la custode, donc pour apporter la communion aux malades. Donc, ça vient du latin custode dire, ça veut dire garder. Voilà pour le vocabulaire. Bon. Donc, nous avons dressé la table et nous allons maintenant vivre la procession des offrandes. En quelque sorte, voyez, nous allons rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est peut-être ça le mouvement de procession. Dieu nous a tout donné. Hein? Et nous revenons vers lui. Saint Thomas d'Aquin, quand il parle de ce qu'on appelle l'économie divine, l'économie, ça veut dire comment Dieu agit, comment il se manifeste. Il dit en fait, il y a un mouvement, alors il emploie ce mot-là en latin, excitus et reditus. L'excite, voilà, excite, ça veut dire sortie. Et reditus, retour, voilà, retour. En fait, le mouvement. C'est quoi? C'est Dieu est sorti de lui-même en créant l'homme. Il est sorti de lui-même en donnant son Fils. Voilà. Il est allé vers nous. Et ensuite, le Fils est remonté vers le Père. Et avec lui, il a pris l'humanité par la main. Il l'a fait retourner dans le sein du Père. Et nous, la même chose, nous retournons vers le Père. Voilà. Nous nous sommes reçus. Nous avons accueilli ce don de la vie. Et nous retournons vers le Père en épousant le mouvement du Fils, en nous offrant en victime sainte, agréable à Dieu. Donc voilà. Donc, voyez, ce retour, eh bien, comment dire, il est pas identique. Hein. Dieu nous a donné la création, il nous a donné le pain. Enfin, pas vraiment, il nous a donné plutôt le blé. Mais par contre, nous allons lui rendre ce blé, mais enrichi de notre travail. Hein. Hein, ce n'est pas du blé que nous offrons à la messe, c'est le pain. Donc ça veut dire c'est le don de Dieu avec notre travail, avec notre coopération. Voilà, Dieu aime bien qu'on revienne vers lui en apportant quelque chose. Il y a un proverbe africain qui dit: la main qui donne est toujours dessus. La main qui donne est toujours dessus. La main qui reçoit est toujours dessous. Au sens un peu, c'est un peu péjoratif. Quand tu donnes, t'es toujours un peu, t'as toujours une certaine supériorité, tu vois, tu donnes. Donc la main qui donne est toujours dessus. La main qui reçoit est toujours dessous. Dieu cultive notre dignité en nous traitant non pas en simple bénéficiaire de ses dons, mais en personne capable de mettre quelque chose sur l'autel à lui donner en retour. Voilà, c'était une des questions, parce qu'on a fait un repas, vous savez, qui vient dîner ce soir? Donc une des questions, je ne sais pas, vous me direz votre opinion, c'était, oui, c'est plus facile d'être invité quand on apporte quelque chose. Bon, je ne sais pas. Voilà. Parce que c'est plus facile quand on apporte. On a plus de pouvoir quand on apporte. On a plus de mal à recevoir. Bon. Je sais pas. Faudra peut-être dire l'année prochaine, tiens, j'apporte le dessert. Soit je fais le repas. Peut-être, on pourra changer. Bon. Voilà. Donc Dieu aime bien qu'on apporte quelque chose. Voilà. Donc ça va être dans la théologie tout ce qu'on appelle le mérite. Vous voyez, quand nous nous confessons, eh bien, nous sommes pardonnés nos péchés, mais Dieu aime bien qu'on coopère à ce salut en restaurant notre cœur par une pénitence. Et donc, c'est tout le thème de notre vie. Hein. Notre vie, c'est quoi? Nous sommes sauvés. Bon, nous avons à accueillir ce salut par la foi, comme dit l'Épître aux Romains, d'accord? Mais ce que je vais signifier, l'accueil de ce salut, c'est cette coopération par des œuvres. Voilà. Ce qui fait que Saint Paul va même dire en Colossiens 24, j'achève en mon cœur, en mon corps, ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église. Voilà. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose donc au début, hein, dans ce retour à Dieu, nous déposons eh bien notre vie. Voilà. Le mouvement, le temps de l'offertoire, c'est le temps où je dépose ma vie. Alors je vous ai mis un premier texte, le texte de Christian de Chergé, que vous lirez chez vous, parce que voilà, où quand il parle de l'idée d'être martyr, eh bien il dit j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu. Elle était déjà donnée dans cette offrande qu'il avait faite. Donc voilà. Et donc il parle vraiment en termes d'offrande, voyez, de ce don, j'ai mis en gras les paroles. Voilà. Vous avez le Charles de Foucault, hein, avec sa prière, Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira. Vous voyez, tous ces textes-là, Christian de Chergé, Charles de Foucault, c'est vraiment l'attitude de cœur que nous avons à avoir pendant cet offertoire. Je sais pas, enfin bon, je ne sais pas si on a cette attitude de cœur, mais c'est ça la disposition à ce moment-là. Seigneur, je te donne ma vie. Ensuite, tu vas la prendre. Voilà, ça va être un deuxième temps. Fais de moi ce qu'il te plaira. Mais à ce moment de la messe, je dépose. En quelque sorte, je dis à Dieu, tu peux faire un... Enfin, je fais un chèque en blanc. Hein, j'avais fait ça une fois, mais je crois que ça n'a pas marché. C'était un camp de jeunes. Et j'avais dit, bah, tiens, on va faire un chèque en blanc. Donc, on avait fait des faux chèques. Et puis on avait dit, ben voilà, vous allez dire à Dieu, ben fais de moi ce qui te plaira. Et Dieu, voilà, tu écris ce que tu veux sur le chèque, tu vois, c'est ça que ça veut dire. Alors, les gens ont très peur. Si je commence à dire à Dieu, fais de moi ce qu'il te plaira, qu'est-ce qui va m'arriver? Je préfère pas lui demander, moi. C'est terrible. Alors que Dieu est bon, enfin, il veut. Bon. Voilà. L'offertoire, il y a une belle image de l'offertoire que je prends à Alain Rouelle dans une de ses conférences. Bon, il n'a jamais écrit de livre, lui, qui est un père de foi et de charité. Il disait, en fait, toute la messe, on est un petit peu comme une balle. Vous savez, le blé, Qu'est-ce qu'on fait? On enlève, voilà, l'ivraie, enfin le, oui, non, l'ivraie, ça c'est autre chose, mais le grain de blé, il est entouré, vous voyez, de, voilà. Et puis donc, on va enlever, et ça, c'est le temps de la purification, hein. On est retiré, on est secoué, on est purifié, et puis ensuite, eh bien, on va devenir cette pâte, on va être broyé, on va s'offrir, et ensuite, l'Esprit Saint va souffler sur nous. Et nous devenons le corps du Christ, voilà. Un petit peu comme dans la Genèse, Dieu prend de la terre, voilà, comme il prend le pain à la messe, ensuite il souffle sur la terre et ça devient le corps du Seigneur. Bon. Donc voilà ce que Dieu fait pour nous, hein, de nous purifier, de faire qu'on ait une hostie vivante, nous le faisons pour Dieu aussi. Nous prenons pas de la terre, mais nous prenons le pain, hein, voilà, et puis nous allons invoquer l'Esprit Saint, nous allons comme souffler, comme Dieu a fait pour nous, souffler sur les offrandes. Enfin, chez les orthodoxes, c'est plus fort parce qu'ils agitent même un petit éventail pour signifier ça. Et ensuite, voilà, ça devient le corps et le sang du Seigneur. Alors maintenant, je m'intéresse dans cette deuxième partie au sens donc du pain et du vin. Nous prenons du pain et du vin, nous ne prenons pas du riz. On pourrait dire, mais tiens, en fait, l'aliment quotidien, c'est le riz dans certains pays. Ça serait quand même mieux de prendre du riz. En même temps, il y a toute une symbolique qui est très forte, puisque le peuple juif va vivre sa Pâque en prenant du pain non levé. Donc, cette première libération du peuple hébreu s'est faite. Pourquoi il n'est pas levé? Parce que ça a été très vite, il a fallu fuir, hein, fuir les Égyptiens, donc on court, on n'a pas le temps, on est à la hâte, voilà, le bâton à la main, hein, comme si on était pèlerin et qu'on partait tout de suite. Donc Jésus, voilà, réactualise, il célèbre la messe lors de la Pâque, donc en reprenant ces aliments-là. Avec du pain non levé, avec les azymes, etc., l'agneau. Bon. Enfin, quoi qu'on ne nous parle pas de l'agneau, je signale, hein, dans les récits de l'institution. On nous dit qu'il prend le pain, on ne nous dit jamais qu'il prend l'agneau. C'est-à-dire qu'on comprend que l'agneau, c'est lui. Voilà, le véritable agneau. Bon, et du coup, nous prenons aussi, voyez, du pain. C'est-à-dire que nous sommes dans une histoire. Nous ne sommes pas une religion atemporelle, hors du temps, hein. On le dit à chaque fois quand on parle de, il a été crucifié sous Ponce Pilate. Bon, voilà, on est bien dans une histoire. Dieu se révèle dans cette histoire, et cette histoire est une révélation. Bon. Voilà, donc c'est important de garder le pain. D'abord, voyez la nourriture. Je m'intéresse simplement. Au fait que c'est de la nourriture, hein. À réfléchir à la nourriture. Ça veut dire quoi la nourriture? Ça veut dire que la nourriture, pour parler de Dieu, je trouve que c'est très parlant. Pourquoi c'est parlant? La première chose, parce qu'on ne peut pas posséder notre vie, on ne peut pas posséder la vie de Dieu, et le signe de cette non-possession, c'est la nourriture. Tu es obligé de te nourrir régulièrement. Pourquoi je suis obligé de me nourrir régulièrement pour bien signifier que je ne peux pas posséder cette vie, que cette vie, je la reçois. Okay? Ça, c'est le sens de la nourriture. La nourriture aussi, il y a cet aspect un peu vivant. Voilà, ça va. Et j'aime bien ce mot de Mère Teresa qui disait, en montrant la croix, là, le Christ nous a aimés au passé, en montrant la croix, et dans l'Eucharistie, il nous aime. Au présent. Il y a un côté vivant, vous voyez. Bon. Deuxième aspect de la nourriture, après l'aspect, comment dire, notre vie nous est donnée, peut-être. Bon. On ne peut pas posséder Dieu. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes conduits par le sensible au spirituel. En fait, Dieu, quand il parle de choses très très grandes, il a besoin de parler par des choses très concrètes. Il a besoin de passer par des choses très concrètes. C'est paradoxal, on pourrait se dire, mais plus on est proche de Dieu, plus on est dans les sphères spirituelles, moins on est dans le concret, pas du tout. La grande manifestation de Dieu, ce que nous gardons du Christ, c'est Christ crucifié, comme dit saint Paul. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très matériel, la croix. C'est pas tellement les discours. Enfin, voilà. Je n'ai voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Nous, c'est pareil, le lieu où nous allons être de manière là, comment dire, le moment où nous allons être le plus étroitement liés à Dieu lui-même, c'est le moment où nous mangeons. Objectivement, c'est le moment de notre vie où nous sommes le plus liés au Christ. Objectivement, c'est... Là, il y a une communion qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je demeure en vous, vous demeurez en moi. Bon. Donc le moment où je suis le plus en communion avec celui qui est esprit, eh bien c'est quand je suis lié à la matière. C'est assez parlant pour nous, hein. C'est-à-dire que notre sainteté, elle passe toujours par des choses très concrètes. Bon, le grand exemple, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, c'est une grande mystique avec une union à Dieu très forte et en même temps un service très matériel. Voilà, elle a sauvé des milliers d'enfants hein, quand même. Hein. Elle disait aux gens, écoutez, avec cette, enfin, elle a une autorité naturelle, mais voilà, elle a envoyé des lettres aux cliniques, enfin, en disant, mais écoutez, les enfants que vous ne voulez pas, nous les prenons. Enfin, nous prenons tous les enfants que vous ne voulez pas. Voilà, nous allons les sauver. Vous ne voulez. Bon. Autre chose, en fait, la nourriture, c'est ce passage où nous passons des mots à la foi pure. Voyez, j'ai envie de dire que dans la première partie de la messe, nous sommes avec les mots. Nous avons un support. La Bible, c'est un support. Il y a des textes, on réfléchit, etc. Vous voyez, c'est assez concret. Enfin, c'est un peu... Bon. Là, avec l'évangile, avec l'Eucharistie, il n'y a plus de support. Là, au niveau de la foi, c'est le vertige. En fait, oui, ben, le but, c'est de progressivement d'entrer dans la foi pure. Hein? Bon. Un petit peu, vous voyez, comme dans l'évangile, au départ, ok, qui suis-je? Je veux dire des gens, tu es le Christ, tu es Élie, etc. Bon. Ok, maintenant, on va rentrer dans la foi pure. Voilà, je vais vous parler de l'offrande de ma vie. Et là, tout d'un coup, Pierre, il n'arrive pas à rentrer, à faire le pas dans la foi pure. Voilà, il veut bien quelqu'un qui est un Christ à sa mesure, qui guérit les gens, qui enlève les Romains du pays. Ça, ça va. Ça cadre bien dans ce qu'il imaginait du Messie. Mais Jésus lui demande un passage dans la foi. Voilà. Et donc, dans le mystère de la croix. Nous, voilà. Sous l'apparence, en fait, on voit l'Eucharistie, on ne voit rien du tout, en fait. L'Eucharistie, c'est justement le lieu où tu ne vois rien. En fait, c'est une éducation pour redevenir enfant. Rappelez-vous ce que dit Jésus, hein, si vous ne ressemblez pas à des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc, la messe, c'est l'inverse de l'éducation de l'enfant. Donc... Un enfant, d'abord, on le nourrit, voilà. Hein, il découvre d'abord le sein de sa mère, etc. Bon, voilà, il est vraiment tout à fait la mère, la nourriture, tout ça, c'est un peu pareil. Bon. Et puis progressivement, il y a une distance qui se crée avec le père, etc. Et on va rentrer dans une conversation, on va parler, voilà. Puis cette distance va s'amplifier, puis après il y aura des concepts, etc. Et puis après il y aura même un échange très égal, très intellectuel entre l'enfant et les parents. L'inverse, la messe, c'est l'inverse. Au départ, nous avons des paroles très compliquées, des histoires de l'Ancien Testament qu'on ne comprend pas, l'épître aux Hébreux, on ne sait pas ce qui se passe, tout ça, là, machin, bon. Voilà, voilà, d'ailleurs, les prêtres, c'est bizarre, ils font toujours des impasses sur les premières lectures, souvent. Bon, alors, l'évangile, ça devient un peu plus simple. Et puis, à la fin, on dit, écoutez, bon, tout ça, on va peut-être arrêter, là, hein, c'est un peu compliqué. on va redevenir comme des enfants, et donc on va recevoir le Christ dans la nourriture, et on va rentrer dans le grand silence. Voilà, le but de la messe, c'est progressivement d'arrêter les paroles, d'arrêter le bavardage, d'arrêter nos réponses à ces paroles, hein, le credo, la prière universelle, l'homélie, tout ça, ça, oui. Mais rentrons dans le grand silence. Et donc, vous voyez, c'est vraiment le mouvement inverse de l'enfant. Voilà. Et puis, dernière chose aussi, c'est le passage des mots aux gestes. En fait, quand on réfléchit au Christ, c'est la même chose, hein. Le grand, comment dire, Jésus termine sa vie par deux gestes qui n'en font qu'un finalement, qui est enfin, par des gestes, même plusieurs. Le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie et le côté ouvert. Le côté ouvert, voilà, montrant par là qu'il donne la vie encore au-delà de la mort. Hein? C'était Sainte Catherine de Sienne qui posait la question à Jésus, parce qu'elle a des conversations avec Jésus, mais pourquoi il fallait que ton cœur soit ouvert? Ben, il disait parce que ma passion a été limitée dans le temps. Et je voulais montrer un amour justement illimité, c'est-à-dire que Jésus donne la vie encore au-delà de la mort. Hein, ça, c'est le signe du côté ouvert. Donc, voilà, on passe, comment dire, des paroles au geste. Hein? On va prendre du pain, ça c'est un geste, on va le rompre, on va le manger, on va... Voilà, ça c'est de la matière. Exactement comme dans la Genèse. Dans la Genèse, le premier récit de la création, c'est des paroles. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit, ok. Deuxième récit de la création, c'est un geste. Il prend du pain, il prend de la terre, pardon, il souffle. Et voilà. Comme si on avait, vous voyez, à travers ces deux récits de la création, nous avions le schéma de la messe. Et montrant comment le geste, en fait, eh bien, est plus grand que la parole. Pourquoi le geste est plus grand que la parole? Pourquoi l'Eucharistie est plus grande que la parole? Parce que l'Eucharistie est personnelle. La parole n'est pas personnelle. Là, vous voyez, je vous parle, et à la messe, c'est pareil, dans la première partie de la messe, la parole s'adresse à tout le monde. Voilà, il y a un micro, et tout le monde entend indifféremment. L'Eucharistie, c'est pas pareil. L'Eucharistie, il va falloir que chacun se déplace pour communier. Vous voyez, c'est beaucoup plus personnel. C'est beaucoup plus individuel. Parce que l'amour est plus individuel. Vous voyez, nous rentrons dans l'ordre de l'amour. L'amour est toujours individuel. Je ne peux pas aimer à la place d'un autre. Je peux servir à la place d'un autre. Voilà. Je peux servir. Écoute, si tu peux pas ranger la salle, t'inquiète pas. Moi, je le ferai cet après-midi. Te déplace pas. Voilà. Mais je peux pas dire, si tu peux pas aimer ton fils, t'inquiète pas. Moi, j'aimerais l'aimer cet après-midi. Et non, c'est pas possible. Voilà. Et du coup, vous voyez, est associé à ce geste, qui est la fraction, enfin, qui est le don du corps du Christ. Un geste qui est le lavement des pieds, qui est un geste personnel. Et Jésus va laver les pieds de chacun de ses disciples, un par un. Bon. Geste personnel et aussi geste intime. Quand il lave les pieds de chacun de ses disciples, il mime un petit peu l'Eucharistie. Je veux me faire très proche. Vous voyez, je vais descendre. En fait, il est en train, à travers le geste du lavement des pieds, d'expliquer, ce geste est une parabole qui explique toute sa vie. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il n'a cessé de descendre. C'est pour ça qu'il est baptisé dans le Jourdain. Le Jourdain, ça veut dire, étymologiquement, celui qui descend. Il n'arrête pas de descendre. Il descend du sein du Père, il descend dans le baptême, il descend au lavement des pieds, il descend dans l'Eucharistie, prenant du pain, en faisant son corps, en disant, là, c'est vraiment la dernière limite, je ne peux pas aller plus loin qu'un morceau de pain qu'on jette dans les poubelles. Voilà, je ne peux pas descendre plus bas. C'est tellement commun la nourriture. Et cette descente, elle est très personnelle dans le lavement des pieds. Il va laver les pieds de chacun de ses disciples. Il veut un amour personnel. Notre Dieu est un Dieu personnel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis un Dieu personnel. Bon. Et puis, pour signifier l'unité, il n'y avait pas mieux que l'Eucharistie. Hein? Nous sommes un Dieu qui veut être un avec nous. Comment réfléchir l'unité? Comment faire un avec l'autre? Le meilleur moyen, c'est la nourriture. Là, t'es sûr qu'avec la nourriture, l'unité, elle est très forte. Hein? Jean 6, 56. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Voilà. Donc voilà pour la nourriture. Peut-être aussi deux choses encore pour la nourriture. Oui. La nourriture va mimer aussi le péché. Je développe plein de choses. Hein. Mimer le péché. Qu'est-ce qu'on fait quand on se... En fait, qu'est-ce qu'on voulait faire de Jésus? On voulait le manger, quoi, littéralement. Hein. On voulait le réduire à rien. C'est ce cas. Quand vous prenez l'évangile, vous voyez comment les gens veulent le détruire. Ben, voilà, c'est un geste prophétique, parce que Jésus, c'est un prophète. Donc, c'est quelqu'un qui parle par des objets. Et bien, la nourriture, c'est ça. Je réduis l'autre à moi-même, en quelque sorte. Voilà. Bon. En même temps, c'est une nourriture qui est une nourriture qui n'est pas carnée. Vous savez que dans la Genèse, donc c'est une nourriture non violente. Hein, ça, c'est le dernier point sur la nourriture. Nourriture non violente. Dans la Genèse, vous regarderez bien le récit. Qu'est-ce qu'on donne aux hommes? On donne tous les arbres de la bande, du jardin. Et puis, comme nourriture, on leur donne, je sais plus trop, enfin bon, les arbustes et les produits des champs. Bon. On ne donne pas comme nourriture, dans la Genèse, au chapitre 1, on ne donne pas d'animaux. Les animaux vont être donnés bien plus tard, au chapitre 9, en Genèse 9, avec Noé. Après le déluge, voilà. Mais avant, on est dans un monde de non-violence. Et le pain, le vin, eh bien, c'est une nourriture qui n'est pas animale, mais qui est végétale. On est dans le monde de la non-violence. Voilà. Bon. Alors, maintenant, je m'intéresse au sens du pain. Le pain. Et ensuite, on fera le vin. Alors, le pain, la première chose, c'est... le premier sens du pain, c'est quand même la pauvreté. Bon. Dieu et ce monde sous un aspect très pauvre. Pourquoi c'est très pauvre? Parce que Dieu veut être aimé librement. Je me présente, prends la parabole de la petite bergère. Donc la petite bergère, et le grand prince. Alors le grand prince, il est très riche. Eh bien, s'il tombe amoureux de la petite bergère, on peut très bien tomber amoureux d'une petite bergère. Si le grand prince arrive avec toutes ses richesses, etc., auprès de la petite bergère, eh bien, la petite bergère va bien sûr dire qu'elle est amoureuse. Elle dit, c'est une opportunité pour sortir de mon métier de bergère. Mais sera-t-elle amoureuse du grand prince pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a? Et Dieu, c'est la même chose. Il veut être aimé librement. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre une apparence riche pour être aimé librement. Dans l'Eucharistie, vous avez la pauvreté la plus extrême. Donc un Dieu qui ne veut pas vous séduire, c'est-à-dire vous acheter. Il ne veut pas m'acheter. Hein? Il veut que je l'aime librement. Bon. En même temps, on peut vivre sans aller à la messe, c'est sûr. Bon. Parce qu'il y a cette liberté. Hein? Si on devait aller à la messe à chaque fois pour vivre... Dieu aurait pu faire ça, hein, on aurait pu dire. Enfin, voilà. Mais en même temps, faut quand même se rappeler que c'est une nourriture Donc si le Christ se donne sous forme de nourriture, c'est qu'en même temps on a besoin de lui. L'apparence veut dire qu'il veut être aimé librement. Hein, je veux pas, voilà, que vous veniez vers moi par obligation. Mais en même temps, rappelez-vous que je me donne sous forme de nourriture, c'est-à-dire sous forme d'une nourriture nécessaire. Le pain, au temps de Jésus, c'est ce qu'il y a d'indispensable. Je suis dans une nourriture qui a la forme, l'aspect de quelque chose d'indispensable. Et c'est pas, je sais pas moi, c'est pas des huîtres. Enfin, les huîtres, c'est pas très indispensable. C'est le pain, c'est ce qu'il y a de plus basique, ce qu'il y a de plus indispensable. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, il faut que tu prennes conscience que ne pas communier alors que tu pourrais communier, c'est te mettre en état de danger de mort. Voilà, comme dit Jésus, Jean 15, 5, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Le pain aussi, donc, j'ai envie de dire, c'est un moyen, voilà, un moyen pour être divinisé, un moyen pour être nourri. Ensuite, la nourriture devient nous, enfin, sauf dans l'Eucharistie. La nourriture, en fait, c'est nous qui devenons ce que nous recevons. C'est l'inverse de la nourriture, en fait. Quand vous mangez les carottes, elles deviennent un œil. Voilà. Quand je communie, eh bien le corps du Christ ne devient pas Paul Lelier, mais c'est moi qui deviens le Christ. C'est l'inverse. Bon. En même temps, Dieu se présente comme un moyen, voilà. C'est-à-dire comme en fait comme un serviteur. La nourriture, c'est un moyen pour grandir. Donc, vous voyez, ce thème du service, vous l'avez tout le temps. Le lavement des pieds, c'est pour ça que le lavement des pieds, en fait, dans l'évangile de Jean, il remplace l'Eucharistie. Vous n'avez pas le récit de l'institution de l'Eucharistie dans l'évangile de Jean, vous avez le lavement des pieds. Pauvreté, liberté, donc. Ensuite, moyen, accepter d'être un moyen, d'être relatif à l'autre. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire aussi? Peut-être aussi, bon, enfin, il y a quelque chose qui peut-être à travailler. Vous voyez, le Père, en fait, c'est souvent celui qui donne le pain. On le voit à travers l'Ancien Testament avec la manne. On le voit avec dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tiens, le Père donne en fait voilà quelque chose d'essentiel. Par contre, le vin, il est donné par la mère en fait dans l'évangile. Comme s'il y avait une coopération entre l'homme et la femme, entre le père et la mère. D'ailleurs, dans les noces de Cana, Marie est appelée femme. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus, vous voyez. Hein? Marie, complémentaire du père et qui va donner le vin. Alors maintenant, je m'intéresse au vin. Le vin, en fait, symbolise la surabondance. Voilà, première chose. Nous ne sommes pas dans la nécessité. Nous n'avons pas besoin de vin. Pas besoin de vin pour vivre. On a besoin d'eau, mais pas de vin. Vous voyez, et comme si le Christ voulait dire, je ne veux pas simplement que vous soyez dans la nécessité avec moi, dans un rapport de dépendance. Je veux aussi que vous soyez dans un rapport, comment dire, de surabondance, d'ivresse, de joie. Voilà, on n'aime pas Dieu parce qu'on en a besoin, on aime Dieu parce que, ivre de joie, vous puiserez aux sources du salut, parce qu'on est appelé à être au-delà de la nécessité. C'est le sens du Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est j'ai travaillé 6 jours, et donc le 7e jour, je vais me reposer, je vais me faire, c'est-à-dire ne rien faire. Comment on se construit? On se construit en ne faisant rien. C'est-à-dire en prenant conscience de tout ce qui s'est réalisé durant la semaine. Je me repose, je prends de la distance et j'entre dans cette jubilation. Voilà, le repos. Eh bien, voilà, le vin, c'est ça, vous voyez, c'est cette surabondance. en quantité, en qualité, qui n'est pas liée au travail pénible. Hein, bien sûr que le vin suppose un certain travail, bien sûr, comme le pain. Mais voyez, le vin, en même temps, on le met dans les cuves et puis ferment, tout ça, je sais pas trop. Enfin, bon. Une certaine passivité. Bon, peut y avoir une image comme ça. Bon. En tout cas, le premier miracle de Jésus, c'est quand même les noces de Cana. La première chose qu'il fait, il dit, moi, voilà, je viens pour cette joie et cette joie complète. Le vin enivre, le pain nourrit. Le vin est aussi signe de la nouveauté. Hein, il est signe de la surabondance et aussi signe de la nouveauté. Hein, quand Noé, arrive sur la terre après le déluge, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va planter une vigne. Quand le peuple hébreu arrive sur la terre, ils découvrent, eh bien, la vigne, et ils vont prendre une énorme grappe de raisin, et cette grappe de raisin va signifier enfin, c'est le symbole d'Israël. Vous savez, dans le drapeau d'Israël, vous avez la grappe. Donc, c'est la nouveauté. Hein. Quand on parle des noces de Cana, on parle de la purification. On va prendre des jarres qui servent à la purification. Donc la purification, dès que vous entendez purifier, souvent c'est Ancien Testament, la loi, impur, qu'est-ce qui est pur, pas pur, etc. On est dans ce monde de l'Ancien Testament, voilà. Hein, des jarres de pierre. Rappelez-vous, hein, je vais changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Purification, pierre, tout ça, voilà, c'est comme des mots qui signifient l'Ancien Testament. Et on passe, voilà, au Nouveau Testament. Où j'ôterai de votre cœur de pierre, votre cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, je ferai que vous suiviez mes lois, je vous donnerai mon esprit, et c'est la Pentecôte, et qu'est-ce qu'on nous dit à la Pentecôte? Ils sont pleins de vin doux. Il est à peine la 10e heure, quoi, la 9e heure. Ils sont pleins de vin doux, ils sont dans cette ivresse, ils sont dans cette nouveauté, dans la nouveauté de l'esprit. Donc le vin, voilà, on est appelé à être dans cette ivresse. Vous voyez, le chrétien, c'est celui qui est joyeux, le chrétien, c'est celui qui a cette vie, qui est plus joyeux que le reste du monde. Le chrétien, il se distingue par sa joie. Il est différent du monde. Vous voyez, oui, le pain, par exemple, est lié au travail, c'est plutôt ça qu'il faut que je dise. Le pain, j'avais noté ça, ils ont marché, travaillé toute la journée. Alors Jésus va multiplier le pain. Vous voyez, on sent que le pain est lié au fruit de cette marche. On n'a plus de pain, on va mourir, il faut que tu donnes du pain. Et on a la multiplication de pain. Le vin, c'est Cana, ils ont été invités, ils n'ont pas travaillé ce jour-là. Voilà, il n'y a pas de travail avec le vin. Dans les noces de Cana, ils ont été simplement invités et on a donné ce vin en surabondance. Voilà. Le vin va aussi signifier, donc, à chaque fois c'est des petits points, hein, l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps, on en parle avec l'histoire du vin, on ne parle plus du pain. Isaïe 25, 6. Isaïe 25, 6. Le Seigneur Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Voilà, je vais préparer pour vous ce festin. Donc nous avons toujours, quand nous communions, nous avons comme un pied déjà dans le ciel. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse, hein. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà, nous attendons ta venue dans la gloire, mais nous avons déjà le gage de la vie éternelle, nous avons déjà un pied au ciel, puisque nous tenons l'Eucharistie entre nos mains, et nous sommes déjà incorporés au Christ. L'eau, voilà, nous sommes dans ce terme, l'eau a été changée en vin à Cana par Marie. Et à la croix, le vin a été changé en sang par Jésus. Il faut, voilà, se placer dans cette histoire. Hein, mon heure n'est-elle pas encore venue? Tu veux hâter mon heure? Et donc on voit bien comment le signe de Cana est déjà un signe de la croix. Il va anticiper l'heure. Et Marie sera appelée femme comme sur la croix. Femme, voici ton fils. C'est un mot pour dire qu'elle est la mère de l'humanité. Elle donne, en fait, elle enfante les serviteurs. Jésus, en quelque sorte, avait enfanté aussi les serviteurs à sa manière, dans la multiplication des pains. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Voilà, comme si une première image de l'institution du sacerdoce. Et là, nous avons une deuxième image par Marie. Marie qui dit aux serviteurs, ben voilà, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Mettez-vous au service de Jésus. Il va vous conduire à la véritable diaconie, qui est de donner au monde cette joie parfaite. Et le jour de la Sainte Cène, eh bien, les disciples, les serviteurs vont passer un cap, puisque l'eau ne sera plus du vin, mais le vin va être changé en sang. Voilà, toujours ce thème de l'association. Dieu aime bien nous associer. Il associe sa mère et ensuite il nous associe. Alors, je m'intéresse maintenant à l'offrande en elle-même. Je vous avais dit, c'était ma troisième partie ou deuxième, je ne sais pas trop. Donc sur l'offrande. J'en ai parlé un petit peu au début, j'ai dit que l'offertoire, c'était s'offrir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on offre exactement? On offre notre travail. Bon, notre travail, c'est-à-dire que nous avons coopéré, mais je l'ai déjà dit ça. Bon. C'était le premier commandement. Hein. Le premier commandement, c'était de soumettre la nature, de la gouverner, de la travailler. Hein, le travail n'est pas quelque chose qui est lié au péché. Ce n'est pas une punition. Le travail devient pénible par le péché, mais il n'est pas une. Il n'est pas un. Au contraire, le travail, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de travail, c'est difficile. Parce qu'il ne crée pas, il a besoin de créer, on a besoin de faire des choses, de se réaliser. Bon. Donc ça, c'est la première chose, et ce travail va comme demeurer, puisque les espèces, l'apparence demeure. Vous voyez, dans l'œuvre de Dieu, Dieu va transformer le pain, ça va devenir vraiment son corps. Mais le grand miracle, c'est que l'apparence demeure. La trace de l'homme demeure. On voit toujours du pain. Et ce n'est pas du pain. Hein. C'est comme si, je ne sais pas moi, ça s'appelle la transsubstantiation. Vous peignez un mur en blanc. Et puis, je sais pas moi, le mur devient transformer le mur. Enfin, ça n'existe pas, mais comme s'il y avait une apparence, le blanc, la peinture blanche resterait, mais elle tiendrait toute seule. Il n'y aurait pas de mur derrière. C'est un peu ça l'Eucharistie. L'Eucharistie, tout est transformé. C'est pas du pain habité. C'est pas Jésus qui va dans le pain. Ce n'est plus du pain, mais l'apparence demeure. Mais c'est une apparence qui tient toute seule. Vous voyez? Parce que c'est pas du pain. Comme une couleur de peinture, une peinture, mais il y aurait pu. Vous détruisez la maison et vous avez le crépi qui reste comme ça, qui tient tout seul. Bon, c'est un peu ça le. Alors, Dieu aime bien qu'on coopère, c'est notre travail, mais plus précisément. J'ai envie de dire que c'est l'offrande de notre vie. Là, je prends cette citation de Jean chapitre 12. Bon, c'est une méditation libre hein, que je vous donne, mais bon. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui aime sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Donc, vous voyez, le grain, en fait, le pain, il est le fruit de quoi? De la mort d'un grain de blé en terre, en fait. C'est ça le pain d'abord. Qui aime sa vie la perd, qui est sa vie en ce monde la conservera. Et c'est le sens du mot hostie. Hein. Hostie vient de hostia qui signifie victime ou agneau, du verbe hostire qui veut dire frapper. L'hostie désigne donc la victime offerte en sacrifice et qui, avant d'être présentée à Dieu, doit être frappée, immolée. Hein, Dieu ne s'est pas contenté des hosties de substitution, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais son Fils incarné s'est livré pour nous en hostie d'agréable odeur, comme dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Vous voyez, le mot hostie, ça veut dire ça, quoi. C'est l'agneau, c'est la victime, c'est voilà, celui qui est offert. Du coup, nous avons deux sens dans l'offertoire. Nous participons, voilà, à ce sacrifice. Nous avons, symboliquement, nous avons acheté des choses. Alors, on n'a pas acheté, mais nous avons une quête. Je vais parler de la quête, là. Nous avons une quête, c'est-à-dire, comme on dit, la quête, elle symbolise, en fait, les achats. Dans le temps, il y a très longtemps, eh bien, on le voit en Afrique aussi, les gens apportaient des offrandes. Donc, ils apportaient, je ne sais pas quoi, de la nourriture, des courgettes, etc., pour signifier la participation. Et on n'était pas là à apporter de la monnaie. On apportait, bon, voilà. Aujourd'hui, l'offertoire, c'est ce moment où on apporte, alors là, c'est remplacé par la quête, on apporte notre travail. Voilà. Bon. Ça, c'est le premier sens. La deuxième chance, c'est qu'on on remet notre vie, comme je l'ai dit, hein, comme si ce cri d'Adam, enfin de Dieu Adam, retentissait encore, où Dieu disait « Adam, Adam, où es-tu ? » Et je dis à ce moment « Me voici, pour faire au Dieu ta volonté, je viens m'offrir. » Alors, en même temps, il y a quand même un lien entre les deux, entre le fait de donner des piécettes et puis de s'offrir soi-même. Je ne peux pas dire que les deux sens sont complètement hermétiques. Dans cette participation à la messe, dans cette quête qui signifie notre travail, en fait, nous nous donnons nous-mêmes. Saint Paul en parle très bien quand il fait de la théologie, dans ses lettres donc. Vous avez, à la fin des lettres, une lettre sur deux, vous avez une histoire de collecte. Bon, Paul parle des collectes, et dit en fait, voilà, nous avons une communauté qui est au loin, qui est à Jérusalem, elle est un petit peu dans la panade, ça va pas bien, il va falloir qu'on l'aide. En l'aidant, nous allons, pas simplement l'aider pour l'aider, nous allons signifier quelque chose de très profond. Nous allons signifier que nous sommes le corps du Christ. Et que c'est la même église qui est à Jérusalem et à Corinthe. Voilà. Comment je vais signifier que nous sommes la même église, que nous sommes de la même famille? Eh bien, en l'aidant matériellement. Et cette aide matérielle, elle va signifier carrément Jésus lui-même qui descend du sein du Père et qui vient sauver l'humanité. Je prends la deuxième aux Corinthiens au chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Donc là, on nous parle de la collecte. Et alors, il dit ceci, voilà, donc parmi les nombreuses tribulations qui ont éprouvé cette communauté, leur joie surabondante, elle est là. Selon leurs moyens, je l'atteste, et au-delà de leurs moyens, spontanément, ils nous ont demandé, avec beaucoup d'insistance, la grâce de participer à ce service en faveur des saints, donc des gens de l'Église. Hein. Bon, dépassant même nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Aussi avons-nous prié Tite de mener encore à bonne fin chez vous cette libéralité comme il avait commencé. Tite a aidé à cette quête. Bon, et puis à cet enseignement qu'il a donné, etc. Alors je prends le 2 Corinthiens 8, 7, mais de même que vous excellez en tout, foi, parole, science, empressement de toute nature, charité que nous vous avons communiquée, donc il s'adresse aux Corinthiens, vous avez une foi extraordinaire, mais il vous faut aussi exceller en cette libéralité. Ce n'est pas un ordre que je donne. Je veux seulement, par l'empressement des autres, éprouver la sincérité de votre charité. Hein? Il va falloir que vous aidiez concrètement, que je voie la sincérité de votre amour. Vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. La phrase, elle est là. Vous vous rendez compte du Christ qui lui-même, en fait, s'est fait pauvre, hein, s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il s'est appauvri afin de vous enrichir par sa pauvreté. C'est un avis que je donne là-dessus et c'est ce qui vous convient à vous qui, dès l'an dernier, avez été les premiers non seulement à entreprendre cette œuvre, cette collecte, mais encore à la vouloir. Maintenant donc, achevez-la afin que l'achèvement réponde à l'ardeur du vouloir selon vos moyens. Bon. Il faut peut-être que je prenne plutôt la traduction liturgique, plutôt que celle-là d'ailleurs, parce qu'elle est plus compliquée, je m'aperçois. Voilà, donc, vous voyez, votre foi, elle doit concrètement passer par votre offrande pour montrer en quelque sorte votre amour, votre foi, et pour signifier en fait le geste de Jésus qui, lui, qui était riche, s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Du coup, vous voyez, si à la quête je donne des boutons de culotte, eh bien, je dis la manière dont je m'offre. Hein? Ça n'existe plus, mais bon, c'est mon papa qui. C'était une expression, ça, non? C'était une expression, hein? C'était vrai parfois. Bon, voilà. Donc voilà, c'est important. La manière dont comment dire, je donne, eh bien, je dis quelque chose aussi à mon enfant. Bon, alors, chacun donne comme il peut, hein. Mais vous voyez, la quête, c'est pas simplement vider son porte-monnaie et mettre des pièces d'un centime. Je dis ça pour ceux qui comptent les quêtes et qui me disent, on se demande s'ils ont compris l'offertoire. Quand vous voyez certaines quêtes, vous voyez, on ne donne pas une pièce d'un centime, je suis désolé, ou 5 centimes, ou 10 centimes. C'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Bon. Alors après, il faudrait peut-être revoir. Moi, j'ai dit qu'il fallait faire des quêtes autrement. Enfin, ben, je sais pas. Enfin, les gens, ils font des quêtes avec des jetons, par exemple. Voilà. Non, à Nantes, ils font ça. C'est-à-dire qu'on achète des jetons et puis on donne, c'est plus simple. Parce que les gens n'ont plus de pièces, en fait. C'est ça le problème. On a une carte bleue, mais on n'a pas de pièces, la nouvelle génération. Bon, on peut faire avec des billets. Bon. Alors, bon, donc ça, c'est la première chose. Alors du coup, vous savez, dans le cours, il faut faire une quête. Donc il y aura une quête la fois prochaine et aussi cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, il y en a qui veulent bien. Et puis la fois prochaine, parce que je me dis, si je dis qu'il n'y a que la semaine prochaine, la fois prochaine, vous aurez oublié. Mais voilà. Donc il y aura une quête à la fin et la fois prochaine. Hein, aujourd'hui. Mais voilà, mais certains n'ont pas. C'est pour payer les frais de toiture, parce que tous ces bâtiments, ça coûte très cher. Le père, le chauffage, les photocopies, la lumière, et montrer votre amour de l'Église. Bon, alors, on va aller plus profondément dans l'offrande de soi. Je vous invite à prendre le texte numéro 2. Ouh là là, mais il est déjà l'heure là. Bon, je termine. 10 minutes alors, ça vous va, 10 minutes? Ouais. Bon, 10 minutes, pas plus. Dans la célébration, texte numéro 2, dans la célébration de la messe, les fidèles constituent le peuple saint, le peuple du rachat et le sacerdoce royal pour rendre grâce à Dieu et pour offrir la victime sans tache. Non seulement pour l'offrir par les mains du prêtre, mais pour l'offrir ensemble avec lui. Et apprendre à s'offrir eux-mêmes. Ils s'efforceront de le manifester par un profond sens religieux et par leur charité envers leurs frères, qui participent à la même célébration. Voilà. Donc, je m'arrête là. Vous voyez, la messe, c'est une école pour apprendre à s'offrir soi-même. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire participer à la messe? Eh bien, c'est s'offrir soi-même. Hein? C'est dire, me voici Seigneur, et je viens faire ta volonté, et je te dis Amen. Dès que nous disons Amen, nous disons, ben, ce que tu me proposes, je l'accepte, je veux bien m'offrir. Mais vous voyez, on peut très bien jouer de la guitare et faire des lectures et faire plein de choses pendant la messe et pas du tout s'offrir soi-même. Parce que ça me valorise, mais ça ne me fait pas mourir. Ça ne me fait pas devenir ce grain de blé en terre qui meurt pour devenir cette pâte. Le véritable mouvement de la messe, c'est l'offrande. Vous voyez bien? Donc offrir, c'est quoi? Alors, je prends l'exemple du fils prodigue et du fils aîné. Le fils aîné, c'est celui qui est incapable de s'offrir soi-même. Donc il n'entre pas dans le festin. Le fils prodigue revient, il est jaloux du père qui refait un banquet super, il pardonne pas au frère, vous voyez, il est incapable de s'offrir. Le problème du fils aîné, c'est l'offrande, il n'arrive pas à s'offrir. Et bon, je pense à un petit exemple très personnel. Je ne vous l'avais pas fait le témoignage du ski. Si, je vous ai parlé du ski, non? Je ne sais plus trop. Enfin bref, on avait fait une soirée, un retour ski. Oui, le retour ski, je vous l'ai fait. Bon. Non. Je vous ai dit, les filles donc, avaient apporté des quiches et des salades, les garçons une petite bouteille de vin. Et on avait fait une semaine de ski avec des jeunes pros, machin, à Parisien. On a dit, à la fin, faut toujours faire un truc, tu sais, quand les gens ont fait une semaine, il faut faire le retour. Donc, on a filé les diapos, tout le monde, etc. On a fait le PowerPoint. On regarde le truc. Bon. Et à la fin, avec cet ami, en fait, les gens sont partis. Et puis, on s'est dit, en fait, la soirée, c'était un peu. En fait, finalement, il y a comme un goût d'ennui. Bon. Alors, pourquoi il y a un goût d'ennui? Mais parce que, en fait, il n'y a pas de mouvement d'offrande. C'est-à-dire, ce ne sont pas le souvenir de glissades sur la neige qui font d'une communauté, qui font d'un groupe. Si par contre on avait réuni les gens en disant, écoutez, ce qu'on va faire, c'est, on a vécu des choses fortes, nous allons maintenant, eh bien, comme nous avons un réseau, comme nous sommes des super copains, nous allons nous offrir, nous allons donner notre vie pour l'évangélisation du monde et nous allons faire des grands projets. Vous voulez vivre un grand projet? Ouais! Bon, alors on démarre! Mais vivre un grand projet, c'est rentrer dans un mouvement d'offrande. Et là, nous serions devenus une communauté. Mais se regarder sur des diapos, ça ne fait pas une communauté. Et une paroisse, c'est la même chose. Et la paroisse, la qualité de la paroisse, elle va être liée à la qualité de l'offrande. De l'offrande de nous-mêmes. C'est-à-dire, plus les gens vont rentrer dans un mouvement d'offrande, pas de consommateur, c'est-à-dire les gens qui disent je vais à la messe, je repars, écoutez, oui mon père, non, vous savez, moi je m'investis dans rien, vous savez, me demandez pas, vous inquiétez pas. C'est pas la question, c'est pas de faire des choses, pas faire, moi je m'en fiche que les gens fassent, et les gens ils peuvent pas faire parce que je sais pas, je pense à une Marie Lecor, vous voyez, qui est responsable de l'école Sainte-Bernadette, son ministère, il est dans son école. Je ne vais pas lui demander de faire des trucs à la paroisse. Bon, elle peut, si ça la détend, mais voilà. Elle a sa famille, elle a tout ça. Bon. Mais je vois bien, vous voyez, là où elle est, pour la côtoyer, eh bien, elle agit, elle offre sa vie. Bon. Et donc, une paroisse, c'est ça. Ce n'est pas tellement des gens qui font plein de choses dans la paroisse, mais c'est des gens qui s'offrent. Et ça, c'est assez secret et c'est assez sensible. Vous voyez très bien, en fait, où sont placés les gens dans l'église déjà? S'ils sont tous au fond, déjà, il y a un souci, ils n'ont pas compris. Et puis, il y a quelque chose qui se sent, je ne sais pas comment dire, quoi. On sent bien quand une communauté s'offre ou elle ne s'offre pas. Je ne sais pas comment vous dire, quoi. Bon. Donc, voilà. Mais c'est assez. Bon. Offrir notre vie, puis offrir aussi. Ce qu'on n'arrive pas à vivre, hein, voilà. Je termine du coup par ce beau texte que vous n'avez pas, mais que je vous donne, que je vous lis, c'est de Marie-Noël. Vous l'avez pas. Non. Un poème. Marie-Noël nous livre ce poème, prière de celui qui ne peut plus, qui ne sait plus, mais qui se souvient que Dieu sait. Vous voilà, mon Dieu, vous me cherchiez. Que me voulez-vous? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Donc, c'est ce dialogue entre Marie-Noël et Dieu. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien. Pas une bonne action ? Dit le Seigneur. J'étais trop lasse. Rien ? Pas une bonne parole ? Dit le Seigneur. J'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Alors donne. La hâte chaque jour de voir la journée finie sans servir à rien. Le désir de repos loin du devoir et des œuvres. Le détachement du bien à faire. Le dégoût de vous, ô mon Dieu. Donne. La torpeur de l'âme. Le remords de ma mollesse et la mollesse plus forte que le remords. Donne, dit le Seigneur. Le besoin d'être heureuse. La tendresse qui brise, la douleur d'être moi sans secours, donne. Des troubles, des épouvantes, des doutes, donne. Seigneur, voilà que comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des immondices. Quand voulez-vous faire, Seigneur? Et le Seigneur lui répond, le royaume des cieux. Voilà. Comme j'ai dit, parfois, une communauté qui est belle, c'est une communauté qui se donne à travers les belles choses, mais c'est aussi une communauté qui s'offre quand elle n'a rien à offrir. Voilà. J'offre ma maladie, j'offre mon incapacité, j'offre ma dépression, j'offre mon désespoir. Et voilà, j'entre dans ce mouvement d'offrande et Dieu, comme un chiffonnier, eh bien, prend tout ça et en fait une véritable offrande à son Père. Voilà, Dieu se sert de tout. Amen. Alléluia.